Eh bien, bonjour à tous.
Bonjour.
Aujourd'hui, je vais vous apporter un message. Je crois que je n'ai jamais prêché sur ce thème, mais il faut le faire. Je vois beaucoup d'articles sur Facebook, des questions dans le genre qui est-ce qui vous a manqué, qui est-ce qui vous manque le plus? Et alors les gens parlent, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu ma mère. Mais des dizaines de personnes qui parlent comme ça au sujet du décès de leur bien-aimé. Et cela, c'est tous les jours. Tous les jours, on dirait que c'est quelqu'un qui... ou quelques personnes qui ont le désir de remuer le chagrin des gens en posant des questions comme ça. Et moi, je veux pas remuer encore pour vous faire du chagrin, mais je veux vous dire ce que la Bible dit au sujet de la mort. C'est nécessaire, je crois que j'ai jamais prêché là-dessus et je vais le faire aujourd'hui. On va lire d'abord dans 1 Samuel 20, verset 3. On va dire déjà verset 1. David s'enfuit de Naïot, de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, qu'ai-je fait? Quelle est ma faute? Quel est mon péché vis-à-vis de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? Jonathan lui répondit, jamais tu ne mourras pas. Mon père ne fera jamais rien sans m'informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il cela? Il n'en est rien. David fit encore ce serment. Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il leur a dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine. Mais par la vie du Seigneur et par ta propre vie, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Voilà. Le roi David était très conscient que... Pas grand-chose. Le psalmiste disait... Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? On voit ça dans le psaume 89, verset 49. C'est la même chose pour les femmes, à part quelques exceptions comme Élie, comme même Jésus est mort, il est ressuscité, mais il est mort. Dans sa méconnaissance de Dieu et dans sa volonté de ne pas penser à la mort, les gens d'aujourd'hui croient vivre dans une époque de libre pensée et d'expression définitive. Ils ont évincé l'idée de la mort, ils ne veulent plus en entendre parler. L'homme a changé le monde et ses lois. Parce qu'il faut le savoir, tout est gouverné par des lois. On dirait qu'il n'y a que les scientifiques qui le savent. Mais les gens croient que la science, les inventions, les découvertes, la philosophie, les pensées matérialistes gouvernent le monde. Pas du tout. Ce sont des lois qui gouvernent le monde. Ce monde a intronisé des faux dieux, le dieu de l'argent, le dieu de la gloire, de l'intelligence humaine et maintenant artificielle. Mais quoi que l'homme fasse ou essaye de faire, la fin elle est toujours la même. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Hébreux chapitre 9, verset 27.
Excuse-moi, Michel.
Oui, il y a un problème de micro.
Ouais. J'ai oublié de le brancher.
D'accord. Et il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Voilà. Hébreux 9, 27. C'est comme ça. Alors au cœur de la vie, nous voyons la mort de tous côtés. La tristesse des ambulances qui hurlent dans les rues, les chapelles ardentes, les cimetières, les corbillards qui se frayent un chemin à travers la circulation. En fait, il y a beaucoup de choses qui nous rappellent que le lugubre moissonneur peut nous faucher à chaque instant et cela... sans nous prévenir. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes montent dans leur voiture sans penser que ça va être leur dernier voyage. Et malgré l'augmentation des mesures de sécurité, des dizaines d'entre elles sont tuées chez elles dans des accidents domestiques, dans toutes sortes de choses. Moi, je fais toujours la guerre. Maintenant, ça y est, j'ai fini de faire la guerre avec ça parce que tout le monde a bien compris, mais dans la cuisine, par exemple, la casserole, l'eau bouillante, ne laissez pas le manche dépasser la cuisinière. Un enfant peut l'attraper, s'ébouillanter, avoir un accident grave, voire mortel. Enfin, il y a plein de choses comme ça. La mort fait une chose, une chasse absolument impitoyable à l'humanité, et bien que la science médicale et les techniques modernes livrent la guerre constante contre la mort, en fin de compte, c'est toujours la mort quand même qui gagne. L'autre jour, j'étais chez mon cancérologue, elle m'a dit, Monsieur Jonton, on parle plus de rémission, on parle de guérison maintenant, c'est fini, c'est terminé, je vous vois encore une fois dans un an, voilà, et puis parce que c'est le protocole, mais c'est fini. Oui, c'est fini, ce cancer c'est terminé, mais un jour je vais quand même mourir, peut-être d'autres choses, j'en sais rien, mais de toute façon on mourra tous, à moins que Jésus nous enlève, que ça soit l'enlèvement, ça serait formidable. Et j'en ai connu des chrétiens qui disaient « Ah, Dieu m'a montré qu'on allait être enlevé, etc. » Ils sont tous morts. Ah, les maladies de cœur fauchent encore beaucoup de nos concitoyens, même dans leur jeunesse. Le cancer attaque encore des millions de personnes. La tuberculose, les maladies de sang, la poliomyélite, les pneumonies réclament leur part. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste, elle est très longue. Quels que soient les chiffres indiqués au sujet des crimes, des suicides et d'autres formes de mort violente, le fait inévitable de la mort reste inchangé. Vous savez que c'est depuis seulement 1970 qu'en France, on parle de serial killer. Avant, il n'y avait pas, ou on ne savait pas. C'était un truc pour les Américains. Et maintenant, ben, c'est venu chez nous. Vous avez des gens qui tuent comme ça. La mort est toujours notre ultime expérience sur la Terre. Et dès qu'un enfant naît, vient au monde, la lutte contre la mort s'engage. C'est vrai. Alors, la mère va consacrer des années d'attention pour son bébé, à la protection de la vie de son enfant. Ce qui est tout à fait normal, elle surveille la nourriture de l'enfant, même les vêtements de l'enfant, parce que vous avez des tissus qui sont plus ou moins nocifs, elle surveille l'entourage aussi. Mais malgré tout, les soins attentifs qu'elle peut porter, l'enfant a déjà commencé à mourir. Et voilà le dentiste qui répare une carie. Et puis voilà que des lunettes sont nécessaires pour remédier à l'affaiblissement de notre vue ou des appareils auditifs. Notre peau se ride avec les années, nos épaules se courbent, nos pas deviennent de plus en plus lents et moins sûrs. Encore l'autre jour, j'ai glissé et je me suis cassé la figure, quelque chose de bien. Là, nos pas sont... Hein, voilà, c'est comme ça. La fragilité de nos os augmentera, notre énergie va en diminuant. Notre ennemi, la mort, est mystérieux, aussi mystérieux que la vie elle-même. C'est mystérieux, la vie. Là, je vois dehors les arbres, on dirait qu'ils sont morts, mais ils ne sont pas morts. C'est mystérieux, la vie va reprendre le dessus, c'est formidable. Parce que la vie que nous voyons abonder autour de nous, dans les plantes, dans les animaux, dans les êtres humains, on ne peut pas la fabriquer, c'est quelque chose de mystérieux. On peut la booster un peu, mais pas la fabriquer, on ne peut même pas l'expliquer. Oui, alors on peut dire, oui, il faut du soleil, il faut de la pluie, là en ce moment les paysans sont contents parce qu'il y a de la pluie, ils sont tout contents, les escargots aussi, ils sont sortis. La mort ne s'explique pas davantage que la vie. Bien que nous soyons aussi sûrs de sa réalité, de la réalité de la mort, que de la réalité de la vie, vous savez que vous êtes vivant, ben vous savez qu'un jour vous mourrez, voilà, c'est comme ça. Alors, on évite d'en parler, Et surtout, on évite d'y réfléchir. C'est rare qu'on fasse des réunions de famille pour parler de ça. On n'aime pas ça. N'est-ce pas étrange que nous dépensions tant d'énergie pour apporter la vie et améliorer la vie dans ce monde et que nous tournions le dos au fait que, qui est tout aussi important, qu'il nous faudra quitter ce monde. Vous avez des gens qui souffrent dans des hôpitaux, mais c'est épouvantable. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller souvent dans les hôpitaux ces dernières années. J'ai vu des gens grimacer de douleur malgré tout ce qu'on pouvait leur donner comme médicaments antidouleurs. Et puis quand ils meurent, ils sont tout beaux. Puis les gens disent « Oh, mais il est parti dans la paix. » Tu parles, ils ont été maquillés, ouais. Vous savez ça? Ils ont été maquillés pour que vous ayez une bonne image de la mort. On veut pas que vous soyez effrayés par cette horreur qu'est la mort. Des milliards de personnes qui peuplent la Terre aujourd'hui, je crois qu'on est 7 ou 8 milliards maintenant, dans son temps, il n'y en aura plus un qui existera, enfin peut-être quelques-uns quand même, parce que maintenant on meurt de plus en plus vieux, c'est vrai, mais dans quel état? Alors leurs corps seront insensibles, retournés à la poussière, à la cendre, à tout ce que vous voulez, mais qu'en est-il de l'âme? Voilà le mystère, c'est quand même un mystère. Quelle est cette chose qui quitte l'homme quand il meurt? Et puis, où est-ce que ça va? On voit bien qu'il y a quelque chose qui est parti. Si vous pesez un mort, il pèse toujours le même poids, mais bon, il y a quelque chose qui est parti. Mais les gens ne veulent pas... Ah non, spirituel, on ne veut pas entendre parler de ça. J'ai lu une chose terrible, c'est un journaliste qui est mort à Denver, il y a quelques années, et sa famille en deuil a entendu sa voix enregistrée sur un magnétophone. C'était au cimetière parce qu'il n'a pas voulu passer dans une église, et voilà ce qu'il disait. Donc c'était un magnétophone qui parlait, c'était le mort, la voix du mort qui s'adressait à sa famille et à ses amis, et voilà ce qu'il disait. « Voilà mon ensevelissement. Je suis athée, je l'ai été depuis des années. J'ai le plus profond mépris pour les sottises théologiques. Les ecclésiastiques sont moralement des lâches. Les miracles sont le fruit de l'imagination. Et si 4 reporters étaient envoyés pour assister à une exécution et fausser les faits comme l'ont fait les apôtres dans la Bible, ils seraient congédiés, ils perdraient leur travail. » Je ne veux pas de chant religieux, ce sera un ensevelissement parfaitement rationnel. Ben, moi, je vous dis une chose, c'est que quand son âme est sortie de son corps, il a immédiatement changé d'avis. Mais vous ne pouvez plus le dire. Mes frères et sœurs, chaque génération a connu des hommes, des femmes qui, dans leur haine contre Dieu, ont essayé de ridiculiser, d'injurier la Bible, l'Église, Jésus-Christ, et cela sans apporter aucune preuve. Ils hurlent contre Dieu, contre la voix de Dieu, contre les écrits saints. L'histoire nous montre un Voltaire, un Georges Bernard Sand, Bernard Shaw, et beaucoup d'autres philosophes qui, par leurs arguments, s'efforcèrent de détruire la crainte de la mort. Un jour, un de ces philosophes était en train de mourir, un athée, et son copain lui tenait la main, il disait « Accroche-toi !» Et le mourant dit « Oui, à quoi ?»« À quoi ?» J'ai parlé avec des anthropologistes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, ou anthropologues, je ne sais pas. Et dans certaines contrées d'Afrique, où il n'y a pas de sottise théologique chrétienne, puisqu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus et de la résurrection et de toutes ces choses, dans certaines tribus, pas partout, hein, mais dans certaines tribus, les vieux, on les emmène bien vivants dans la brousse afin que les bêtes sauvages les attaquent et les bouffent. Parce qu'ils ne veulent pas que les jeunes voient le spectacle de la mort des vieux. Parce que c'est trop moche, c'est trop décourageant. Mes frères et sœurs, la mort, en dehors de l'influence chrétienne, est pleine d'horreur et de désespérance. Pourquoi Dieu a-t-il pris ma femme? Pourquoi Dieu a-t-il pris mon enfant? Pourquoi? Il n'y a pas de réponse. Dieu ne donne pas des réponses à ça. Il a déjà tout dit dans le livre. Il ne va pas vous répondre encore et encore et encore. C'est à vous de chercher et de trouver les réponses. Parce que Jésus-Christ a donné un sens nouveau à la mort. L'homme l'a toujours considéré comme un ennemi. Et c'est un ennemi. C'est vrai que ce n'est pas gentil la mort. Mais Jésus affirme qu'il l'a vaincu d'abord en lui enlevant son aiguillon. L'aiguillon de la mort, vous savez ce que c'est? L'aiguillon, c'est un bâton pointu dont se servent les bergers pour piquer les veaux, les vaches et les cochons pour qu'ils aillent dans la bonne direction. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ça nous pique, et puis alors on est tenté, on est amorcé, et puis on pêche, et puis le salaire du péché, c'est la mort. Quand il parlait de la mort, Jésus disait « Ne vous préoccupez pas de la mort du corps, mais plutôt de la mort éternelle de votre âme. » La Bible indique qu'il y a en réalité deux morts. La mort physique et la mort éternelle. La mort spirituelle, la mort éternelle. Jésus nous conseille de craindre la seconde mort beaucoup plus que la première. Il décrit la seconde mort comme un étang de feu, comme la séparation définitive d'avec Dieu. Alors j'ai entendu des discours qui disaient « Oui, mais si Dieu nous envoie dans le feu, on va brûler, on va cramer, on va disparaître, on n'existera plus. » Il y a des feux qui brûlent mais ne consument pas les choses. Rappelez-vous du buisson ardent. C'est ça, tout simplement une souffrance éternelle. La mort du corps n'est pas en comparaison du bannissement sans fin d'une âme loin de Dieu, loin de la vie et consciente qu'elle a tout raté. La mort du chrétien qui a confessé ses péchés, qui a reçu par la foi Jésus-Christ comme son sauveur personnel, la Bible dit « la mort d'une telle personne est belle ». Parce que c'est pas la mort du corps qui est importante. Il y a une femme qui s'appelle Jane Wheeler, excusez-moi la prononciation, qui enseignait la littérature en mai 1949. Elle a écrit une lettre au docteur Edman, qui était président de l'université où elle travaillait. Et cette lettre, elle l'a envoyée aussi à ses collègues, à ses élèves et à ses anciens élèves. Je vais vous la lire. Voilà ce qu'elle dit. « Je serais très heureuse si on voulait bien lire ce qui suit pendant le culte, avant que vous ne quittiez l'université pour les vacances d'été. J'aimerais que vous sachiez la vérité à mon sujet. » Comme je l'ai apprise moi-même vendredi dernier, mon médecin m'a enfin fait connaître son diagnostic de la maladie dont je souffre depuis des semaines. C'est un cancer inopérable. S'il était chrétien, il n'aurait pas eu tant de peine à parler car il aurait su, comme vous et moi, que la vie et la mort sont également bienvenues quand on vit selon la volonté et la présence du Seigneur. Si le Seigneur veut que j'aille bientôt à lui, j'y vais avec joie. Je vous demande de ne pas vous affliger un instant à mon sujet. Je ne vous dis pas un simple adieu, mais plutôt un chaleureux au revoir, jusqu'à ce que je vous retrouve dans le pays béni dont il me sera peut-être permis d'écarter un rideau lorsque vous entrerez, avec un cœur plein d'affection pour chacun de vous individuellement. Effie Jane Wheeler. Magnifique. Deux semaines après, cette femme est décédée. Jane Wheeler est entrée dans la présence de son Seigneur. Son Seigneur qui avait tenu sa promesse d'enlever l'aiguillon de la mort, c'est-à-dire le péché. Il a enlevé le péché de ses enfants et ses enfants deviennent justes par la foi et quand ils meurent, ils vont vers le Seigneur. La Bible enseigne que votre âme, votre véritable moi, qui pense, qui sent, qui rêve, qui désire, votre moi, votre personnalité, peut recevoir la vie éternelle ici-bas. C'est ici-bas. Si vous recevez Jésus, vous vivrez avec Dieu, sinon, vous irez dans ce que la Bible appelle le Hadès, où vous attendrez le jugement de Dieu. Et ce n'est pas un endroit très réjouissant. Mes frères et sœurs, mes amis qui m'écoutez là aujourd'hui, en tant que pasteur, je dois en parler. Je sais que ça n'est pas très populaire, je ne peux pas ignorer ces choses parce que ça met les gens mal à l'aise. Je dois en parler. C'est la doctrine chrétienne la plus difficile à enseigner. On va lire quelques textes. On va lire dans Matthieu, chapitre 13, versets 41-42, c'est Jésus qui parle. 13-41-42, voilà ce que Jésus dit. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, Jésus, enverra ses anges qui arracheront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes, ceux qui auront été justifiés, brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. Les justes, c'est pas des gens qui font le bien forcément, c'est des gens qui se sont repentis, et Jésus a enlevé l'aiguillon de la mort, c'est-à-dire ce truc, ce péché. Il a ôté le péché du monde. Dans le même chapitre, verset 49-50, il enfonce le clou, il dit « Il en sera de même à la fin du monde, les anges s'en iront séparer les mauvais du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Avez-vous compris tout cela? Jésus voulait, il était clair, il voulait dire l'histoire d'où Jésus, oui, mais il parle... Il est sévère aussi, mais c'est juste. Alors, la question c'est, est-ce qu'un Dieu d'amour peut envoyer quelqu'un en enfer? Oui. Il ne le fait pas avec plaisir, mais en réalité, c'est l'homme qui se condamne lui-même en refusant le moyen du salut que Dieu donne. C'est gratuit, il ne le veut pas. Il n'en veut pas. Bon, ben voilà. Il y a des conséquences. Par amour, comme un cadeau, Dieu offre à l'homme un moyen d'échapper à cette mort spirituelle, à cette séparation d'avec Dieu, à la géhenne, à l'Hadès, au lieu de tourment. Il offre le chemin du salut, mais l'homme, dans son aveuglement, dans sa stupidité, dans son obstination, dans sa vanité, dans son orgueil, dans son amour des plaisirs malsains, refuse le moyen simple que Dieu donne. Il n'en veut pas. Supposons que vous soyez malade et vous toussez, voilà. Et puis vous allez voir un médecin et puis il vous fait une ordonnance, il vous prescrit. Il écrit quelque chose, une ordonnance, et vous la donne. Et puis vous allez chez le pharmacien, mais en allant chez le pharmacien, vous... Enfin, vous lâchez quand même, vous rentrez chez vous, vous lisez la notice. Beaucoup de gens lisent la notice, ils lisent la Bible. Mais à la place de prendre le médicament, ils disent « Oh non, on va voir après tout ». Et ils jettent le médicament avec la notice. Voilà. Et quelques jours plus tard, il est encore plus mal foutu qu'avant. Et qui est responsable de l'aggravation de son état? Le pharmacien, la notice explicative qui expliquait mal? Non, c'est l'idiot qui n'a pas voulu se soigner. De même, Dieu prescrit le remède pour la maladie de l'humanité, contre le péché. Le remède, c'est la foi dans ce qu'il dit, pas dans ce qu'il dit au travers des guignols qui racontent n'importe quoi dans les églises, mais de ce qu'il dit dans la Bible. Dans la Bible! Et puis alors, une fois que vous avez mis votre foi dans ce que Dieu dit, et que vous avez abandonné votre vie à Jésus-Christ, ben c'est bon. La Bible dit que vous êtes sauvés. Si vous refusez ça, Dieu ne vous punira pas parce qu'il n'est pas méchant. Mais vous devrez en subir les conséquences. C'est tout. Il vous a averti, encore aujourd'hui. Il vous avertit. Et vous ne pourrez pas blâmer Dieu. Est-ce la faute de Dieu si vous refusez? Bien sûr que non. Quand je me suis converti en 1968, il y a une question qui me troublait. Parce qu'en 1965, mon père est décédé. Et mon père, il était né dans une famille où la mère était indigne. Et l'État a pris les gamins, puis ils ont tous été placés à gauche, à droite. Et mon père, il était placé dans une famille de pasteurs protestants. Je n'ai rien contre les pasteurs protestants, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Mais mon père est tombé, à l'âge de 4 ans, dans une famille où le père était pasteur, et c'était une véritable ordure. C'est-à-dire que sur la chair, c'était un ange, il prêchait d'une façon magnifique, mais à la maison, il battait sa femme, il se saoulait la figure, il battait ses enfants, Alors mon père, voyant cela, grandissant dans cette ambiance, a commencé par être révolté contre le clergé, et puis de fil en aiguille contre Dieu, et puis il fallait pas parler de Dieu à la maison, on n'en parlait jamais, mon père voulait pas, voilà. Alors la question qui me taraudait, c'était, mon père n'a pas voulu de Dieu, où est-ce qu'il est? Puisque Jésus dit, seuls ceux qui croient en moi et qui obéissent sont sauvés. Je dis, mais alors lui, il est perdu, alors il est en enfer. Et ça m'a tourmenté pendant des années, jusqu'au moment où j'ai trouvé la réponse dans la Bible. Et je l'ai prêché, et là encore, les gens n'y croient pas. C'est pas dans notre credo. Notre Église nous enseigne pas ça. Oh, mais ça, c'est une erreur que les apôtres ont fait au début du christianisme, mais maintenant on a arrêté parce que c'était pas juste. Voyons. Tant pis. Je vous donne dans les commentaires une étude sur ces choses. Qu'arrive-t-il quand un incroyant meurt? Vous, qui êtes encore vivant, soyez en ordre avec Dieu. Repentez-vous de vos péchés, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez le Saint-Esprit, marchez selon ses ordres, selon ses commandements, pour vos bien-aimés qui sont morts sans la foi, lisez mon étude et puis écrivez-moi. Écrivez-moi après. Voilà, j'ai terminé ce que je voulais vous dire ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à prendre conscience que, on y passera tous, à moins que Jésus nous enlève. Mais ça fait 2000 ans, déjà les premiers apôtres qui croyaient que c'était pour tout de suite. Puis maintenant, on a des espèces de prophètes à la gomme qui vous disent « Jésus, d'après mes calculs, devrait revenir à telle date parce que si on ajoute l'âge du capitaine ad hoc avec la longueur de la voie de chemin de fer entre Paris et Brest, on trouve un certain chiffre et en divisant par 42, on peut trouver la date du retour de Jésus. Si je vous en supplie, n'écoutez pas ces idiots. Jésus lui-même a dit « Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Jésus reviendra quand Dieu lui dira de revenir, puis c'est tout. » On sera enlevé quand ça sera le moment, mais on n'en sait rien quand ça sera. Alors, préparez-vous. Vous allez peut-être mourir demain. Je vais peut-être mourir demain. Mais si vous êtes prêts, la terre continuera à tourner jusqu'à ce que Dieu décide un jour, c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À bientôt.